Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Olivier Picard.
Bonjour.
Vous êtes historien helléniste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et dans une précédente émission sur l'histoire après Hérodote, vous aviez évoqué Thucydide. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Xénophon, Éphore, Diodore de Sicile, Polybe et Plutarque.
Alors, là aussi, le succès de Thucydide a été considérable, et il y a eu plusieurs successeurs de Thucydide. Nous en avons un au complet. C'est Xénophon qui va jusqu'à la fin de l'hégémonie spartiate, jusqu'en 362, pratiquement jusqu'à l'avènement de Philippe de Macédoine, mais c'est un hasard. Il y en a d'autres. Nous savons que le grand historien de Philippe, dont les œuvres sont perdues, Théopompe, avait aussi écrit une suite de Thucydide, et nous avons d'autres exemples de suites de Thucydide. Mais peut-être que le phénomène le plus intéressant au IVe siècle, c'est l'apparition d'une tentative d'histoire universelle. Et ceci, c'est l'œuvre de Éphore. Éphore, qui est un grec originaire d'Asie mineure, d'une petite cité d'Asie mineure, qui vient, comme les élèves de Platon, comme les élèves des grands orateurs, qui vient se former à Athènes. Et il se forme chez Isocrate, chez un des grands orateurs de cette époque-là. Et il se forme à la rhétorique. Et il y a des liens très nombreux entre la rhétorique et l'histoire, de même qu'entre la philosophie et l'histoire, et en particulier parce que, à partir du IVe siècle, de plus en plus, les orateurs utilisent les exemples historiques pour montrer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, pour appuyer ce qu'ils recommandent. Et Éphore va se spécialiser, en quelque sorte, dans l'histoire. Il reste à Athènes, qui est quand même, malgré la défaite, la ville où apparemment il est le plus agréable d'habiter, et c'est le centre intellectuel du monde, incontestablement. Et il y a aussi d'ailleurs quelque chose que nous mesurons moins, mais probablement des rassemblements, enfin la naissance des bibliothèques qui permet aussi à Éphore de faire son travail. Et Éphore va se lancer dans une entreprise tout à fait extraordinaire qui est l'histoire universelle des Grecs. Alors Éphore observe une différence très nette entre... qu'on avait déjà trouvé chez Hérodote, une différence très nette entre le mythe, c'est-à-dire le récit invérifiable, et le récit invérifiable, pour lui, ça va jusqu'à l'épopée. Et vous voyez, nous retrouvons ce que nous avions déjà vu à propos d'Hérodote. Donc, il s'arrête après la guerre de Troie. Et il commence à un épisode qui, lui aussi, est assez largement mythique. On discute toujours de nos jours pour savoir s'il est historique ou non, mais qui était documenté par des reconstructions ultérieures, et qui est le retour des Héraclides dans le Péloponnèse, le retour des petits-fils d'Héraclès. Nous sommes dans le mythe, mais ce retour des Héraclides est identifié par les anciens avec l'installation des Doriens. Alors, est-ce que cette installation des Doriens est historique ou pas? Je suis incapable de vous le dire. Mais cette installation des Doriens va donner naissance à des royautés, à Argos et à Sparte, et on a des listes de rois qui ont été reconstituées après coup, dont la véracité est assez sujette à caution, mais qui donnent tout de même un cadre chronologique à Éphore. Et il y en a d'autres. Il est certain que les grandes fondations de cités... Syracuse, par exemple, en 733, avait gardé le souvenir de générations. Et on comptait dans les cités tant de générations depuis la fondation de la cité. Et puis, il y avait des listes de prêtres. Enfin, il y avait différentes listes. Il y avait aussi quelque chose de très important qui avait été constitué par un homme d'Élise, de la cité qui contrôle Olympie, qui est la liste des vainqueurs olympiques. Et constituer la liste des vainqueurs, c'est un travail extrêmement sérieux. Nous savons que la cité de Delphes avait chargé Aristote et son neveu de faire cette liste des vainqueurs au concours pythique. Et nous avons une inscription qui nous relate cela. Donc ceci est absolument certain. Que vaut cette liste des vainqueurs aux concours olympiques, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de le vérifier. Et on peut soupçonner que les reconstitutions du 7e et du 8e siècle sont sujettes à caution. Néanmoins, dès le 3e siècle, à partir de Timée, les premiers concours olympiques, en 776, constituent le point de départ de l'histoire grecque. Et à partir de ce moment-là, on aura un point de départ précis et ça sera compté par Olympiade. On sera la première année de la 6e Olympiade ou la 4e année de la 20e Olympiade. Et donc, on a un cadre historique complet.
Un cadre chronologique fiable?
Non. C'est un cadre chronologique auquel les gens se sont fiés, mais il faut bien reconnaître qu'avant le 6e siècle, c'est assez incertain.
Oui, mais à partir du 3e.
Mais même à partir du milieu du 5e siècle, on peut s'y fier. Alors, les techniques modernes de l'archéologie ont complété les choses, d'abord par la céramique, et on a cherché à mettre en rapport, d'une part, les trouvailles de céramique dans les colonies de Sicile et d'ailleurs avec la chronologie construite par les anciens. En gros, il y a eu trois temps. Dans un premier temps, c'était merveilleux, ça coïncidait et on pouvait en être sûr. Dans un deuxième temps, qui remonte à ma jeunesse, il fallait rien y croire et tout ceci était totalement fictif. À l'heure actuelle, on adopte une position plus modérée qui est probablement. Simplement, nous savons que nous pouvons dater de façon de plus en plus précise la chronologie et que la céramique et que le raccord entre les événements historiques et les données céramologiques, les données stratigraphiques, est un exercice de recherche extrêmement difficile, mais qui donne quand même des résultats. Et puis, on a, par le carbone 14, par toutes sortes d'autres mesures, on a des moyens de plus en plus précis, bien entendu, pour remonter dans le temps, ça c'est certain.
Mais alors après Diodore de Sicile, lui, alors, c'est une époque beaucoup plus tardive.
Oui, alors Éphore, son œuvre n'a pas été conservée. Nous n'avons que des fragments et encore des fragments pas très importants. En revanche, l'histoire universelle la plus complète que nous ayons, et alors là ce sont des ambitions encore beaucoup plus larges, c'est celle de Diodore de Sicile. Diodore de Sicile, il est originaire de Sicile, comme son nom l'indique. Il a vécu à Rome, travaillé à Rome. Et il est contemporain de Jules César, à peu de choses près. Et ses ambitions sont beaucoup plus grandes, puisqu'il veut raconter, dit-il, tout ce qui s'est dit chez tous les hommes. Alors, chez tous les hommes, à cette époque-là, ça ne comporte ni les Indiens, ni les Chinois, ni, bien entendu, d'autres peuples. Mais il intègre l'Égypte pharaonique, la Babylonie et, en principe, tous les peuples de l'Orient. Et donc, il commence à une date, à vrai dire assez imprécise, mais qui est celle des premières dynasties orientales. Et puis, ceci est impliqué par l'inclusion de ces royaumes, il ne se limite pas à une histoire des Grecs, il fait également une histoire, disons, des peuples de la Méditerranée.
Oui, d'ailleurs, il y a des passages sur la Gaule de Diodore de
Sicile. Alors, il y a des passages sur la Gaule. Ce ne sont pas les passages les plus complets ni les mieux informés, mais pendant très longtemps, l'histoire, jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes, l'histoire de l'Égypte pharaonique, a reposé sur Hérodote et sur Diodore de Sicile, essentiellement. Et alors, lui utilise ce cadre très précis, qui est celui des années olympiques, également des archontes d'Athènes, on a une reconstitution des archontes d'Athènes, et également, là, il a du mal à faire la couture, il y a quelquefois des erreurs, mais c'est significatif des temps où il vit, l'histoire de Rome, et donc les consuls romains. Et Diodore nous est conservé, mais il faut bien prendre conscience que dans beaucoup de cités, je dirais même, peut-être par optimisme, dans toutes les grandes cités, on essayait de constituer aussi, par des listes de magistrats, par des listes d'événements importants arrivés dans les cités, à constituer une histoire locale. Et il y a une inscription au IIIe siècle, qui est ce qu'on appelle la chronique de Paros, qui nous donne la chronologie de l'histoire grecque vue de l'île de Paros. De même, Rhodien, apocalénistique, écrit une histoire de Lindos à travers les offrandes faites au sanctuaire d'Athéna à Lindos. Alors, les offrandes des époques les plus récentes sont incontestablement historiques, même si nous ne les avons plus. Lorsqu'il nous parle d'offrandes faites par tel ou tel héros, on peut évidemment douter de la véracité ou de l'authenticité de l'objet. Mais ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est important, c'est de voir que ces cités, et je vous dis probablement toutes, enfin toutes les cités importantes, ont cherché à constituer leur histoire et à consigner quelque part, sur la pierre, dans des manuscrits, leur histoire. Et ça a été une curiosité absolument générale.
Et Polybe ?
Alors, Polybe est à la jonction de deux phénomènes. D'une part, nous revenons au récit des temps vécus. Polybe est un homme du Péloponnèse, il appartient à une excellente famille du Péloponnèse, son père a joué un rôle politique important, lui aussi a commencé à jouer un rôle politique important, il a exercé des fonctions importantes. Quand il lui arrive ce qui aurait pu être une catastrophe, mais qui finalement a été une chance pour lui, après la troisième guerre de Macédoine, les Romains qui se méfient de la fidélité des Achéens, des Péloponnésiens, décident de déporter en Italie toute une série de notables de la région pour s'assurer de la fidélité de la cité. Normalement, Polybe aurait dû aller passer des années dans une petite ville d'Italie où il se serait profondément ennuyé. La chance, c'est que, alors nous ne savons pas exactement comment...
Il est allé chez les Scipions.
Il a noué des relations amicales avec les Scipions, et les Scipions l'ont gardé comme quelque chose de très précieux pour une grande famille. Les Scipions dominent la République romaine à ce moment-là, et Polybe va être leur expert en affaires grecques. Et donc, il va écrire à la fois pour les Grecs une histoire de la façon dont Rome est devenue maîtresse de la Méditerranée, en même temps que pour les Scipions, il expliquait aux Scipions ce que c'était que la Grèce, ce que c'était que Délos, ce que c'était que Olympie, quel avait été le passé d'Athènes, etc. Et il a très très bien réussi, puisque les Scipions le prennent avec eux dans l'état-major au moment de la prise de Carthage, et surtout en 148, il y a une nouvelle révolte de la Grèce qui affecte le Péloponnèse, et Polybe est à ce moment-là chargé par Rome officiellement de rétablir la situation, de rétablir l'ordre. Il l'a fait avec énergie, mais évidemment avec aussi beaucoup de sympathie pour ses cités. Et lui aussi, c'est un peu comme Thucydide ou comme Hérodote, il est parti d'une question capitale qui est comment est-ce que, en l'espace d'une génération, Rome, dont on savait que c'était la principale cité d'Italie, mais comment est-ce que Rome, principale cité d'Italie, devient en l'espace d'une génération la maîtresse de la Méditerranée ? Et sa conclusion est que cela est dû, d'une part, aux fautes des Grecs, et en particulier de gens qu'ils détestent, qui sont les rois hellénistiques, les derniers rois de Macédoine, les autres rois, et aussi au mérite des Romains, et que ça n'est pas par la fortune, ça n'est pas par tuquet, ça n'est pas par hasard que Rome est devenue maîtresse du monde, c'est véritablement sa supériorité morale et politique.
En fait, Alexandre, lui, était apprécié. Vous avez parlé des rois hellénistiques, c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse une toute petite parenthèse sur Alexandre, qui, tout en étant un roi, aux yeux des Grecs, avait d'abord eu la réussite d'aller porter le monde grec en Asie, et finalement, il avait laissé une espèce d'aura autour de lui.
Ah, sans aucun doute. Je ne sais pas si on peut employer le mot d'apprécier qui implique une relation personnelle et une estime personnelle, mais c'est incontestablement un personnage extraordinaire. Imaginez, il part à la conquête d'une puissance qui recouvre, qui va de l'Égypte jusqu'à la Turquie, jusqu'en Afghanistan et même jusqu'au Pakistan, et qui contrôle toutes ces régions-là. Et, contrairement à ce que la logique aurait voulu, en trois grandes batailles, il réussit à détruire l'armée achéménide, il se pose en successeur des achéménides et il domine toute la région. Donc, quand on disait aux Grecs que c'était un personnage surhumain et même divin, ils étaient tout disposés à le croire. Alors, parmi les Grecs, Il y a des gens qui ont souffert de son autoritarisme. Athènes, Sparte n'ont pas apprécié Alexandre. En revanche, les cités d'Asie mineure ont probablement eu, sauf Milet, à se féliciter de son intervention. Et puis, après sa mort, évidemment, sa dimension mythique l'emporte et c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, Alexandre n'aura pas, auprès des Romains, la même mauvaise réputation que les rois hellénistiques. Alexandre continuera à être un héros et un empereur comme Caracalla et d'autres empereurs se voyaient en nouvel Alexandre. Enfin, c'est tout à fait significatif.
On va revenir à Plutarque.
Il est difficile, plus nous avançons et plus l'histoire, évidemment, devient complexe, plus nous avons d'œuvres variées et plus, je dirais, un esprit historique pénètre les différentes réflexions et les gens ont de plus en plus le sentiment que eh bien, les événements se passent à un moment donné, dans un lieu donné. Il y a peut-être des structures universelles, mais nous retrouvons à l'heure actuelle aussi, dans les formes de pensée, cette opposition entre structuralisme et sens historique. Et ce sens historique pénètre de plus en plus les Grecs, et ils ont besoin pour répondre à leur... C'est pour ça d'ailleurs que cette histoire grecque, c'est quelque chose de si vivant. Ça n'est pas un... travail scolaire. Il y a une part de scolarité. Il fallait bien que les jeunes Romains et les jeunes Grecs apprissent l'histoire. Mais c'est toujours quelque chose de vécu et d'important. Et alors, Plutarque est en effet, dans les grands historiens grecs, même si certains lui dénient ce titre d'historien, un de ceux qui ont obtenu le plus grand succès. Alors, Plutarque est un Béotien qui naît vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est contemporain des Domitien et jusqu'à Adrien. Et Plutarque fait ses études à Athènes et, comme beaucoup de jeunes gens, il est passionné par la philosophie. Les philosophes modernes ont quelquefois tendance à mettre en doute ses capacités philosophiques, mais peu importe. Il a été alors très profondément ce qu'on peut dire un moraliste, c'est-à-dire un moraliste à la fois comme chercheur et un moraliste comme définissant une conduite. Comme chercheur, il s'est intéressé aux différences entre les coutumes grecques et les coutumes romaines ou les coutumes barbares et surtout il a cette idée que, en somme, l'histoire de la Méditerranée est un bien commun aux Grecs et aux Romains, que cette civilisation est une civilisation, je ne dirais pas biculturelle, parce que c'est la même culture.
Un peu biface.
Bilingue, en tout cas. Il y a à Rome le bureau aux lettres grecques et le bureau aux lettres romaines, et il y a des empereurs romains qui écrivent plus facilement en grec qu'en latin. Et il a l'idée d'écrire pour ses amis romains, mais aussi évidemment pour ses lecteurs grecs, des vies d'hommes célèbres. Alors, la biographie était devenue un genre à la mode depuis un certain temps, mais son idée remarquable a été de prendre en parallèle un grec et un romain. Soit contemporain, soit ayant joué un rôle historique qui lui paraît comparable. Et donc, il montre à chaque fois en quoi les aptitudes individuelles de la personne et puis le milieu social, le milieu politique, Rome, la Grèce, influent sur la carrière, sur les résultats, sur la réputation de la personne et dans quelle mesure le personnage mérite la réputation qu'il a obtenue ou au contraire il y a des zones d'ombre. Alors, il est si significatif que nous n'avons pas toutes ces vies, un certain nombre sont perdues. Ces choix sont intéressants. D'abord, ces choix négatifs. Nous avons une vie d'Alexandre qui est mise en parallèle avec César. Donc, c'est un peu le fondateur du nouveau monde grec et le fondateur du nouveau monde romain. Nous n'avons aucun roi hellénistique. Nous avons les deux grands orateurs. Nous avons Démosthène et Cicéron et qui, l'un et l'autre, ont à la fois joué un grand rôle politique et qui ont en même temps échoué, puisque finalement, Athènes est vaincue par Philippe Achéronée, c'est le parti de César qui l'emporte, et Démosthène comme Cicéron sont assassinés l'un et l'autre pour des raisons politiques. Nous avons donc toute une série de parallèles qui étaient destinés à la fois apprendre l'histoire, mais surtout à être un peu une espèce de livre de conduite. Et plus tard que Fay à cet égard, et c'est peut-être là-dessus que nous terminerons, Fay à cet égard le pont entre la curiosité des historiens anciens et la curiosité moderne, à la fois pour le genre historique, avec évidemment des méthodes qui se sont beaucoup développées, et la curiosité moderne pour les historiens anciens. Et je ne saurais mieux conclure qu'en incitant les auditeurs à aller lire d'excellentes traductions de ces historiens. Ils trouveront que c'est passionnant.
Merci beaucoup, Olivier Picard.